Ce message vous est proposé gratuitement.
Gratuitement.
Et en intégralité par le ministère Enseigne-moi. Sa diffusion est rendue possible grâce aux généreux dons des internautes comme vous. Nous vous souhaitons une agréable écoute sur enseignemoi.com, le site partenaire des églises locales.
Ce matin, nous allons voir ensemble pourquoi
le
Seigneur nous donne sa parole. Du moins, une raison particulière. Et surtout, pourquoi c'est important pour nous de la connaître et encore plus de la suivre. Vous savez, en règle générale, dans les pays où il y a des voitures qui circulent, il existe ce qu'on appelle le code de la route. Le but du code de la route n'est pas de déranger les gens qui conduisent ou ceux qui marchent à pied ou en vélo. Le but du code de la route, c'est de protéger tout le monde. Ceux qui circulent en voiture, ceux qui circulent en vélo, en moto, en camion, et aussi ceux qui marchent à pied. Et en principe, quand tout le monde respecte bien le code de la route, il n'y a pas d'accident. Les accidents sont causés par le fait qu'on ne respecte pas le code de la route. Ou que la voiture tombe en panne brutalement sans avoir prévenu. Amen. Et c'est la même raison pour laquelle le Seigneur nous donne sa parole. Et quand on parle du code de la route, il y en a qui le connaissent, qui le respectent, il y en a d'autres qui le connaissent, qui ne le respectent pas, et il y a ceux qui ne le connaissent pas et qui ne le respectent pas. Et quand on ne connaît pas le code de la route, ou quand on le connaît et qu'on ne le respecte pas, on vit dans un très grand désordre. Beaucoup de problèmes, d'accidents, d'embouteillages. Vous savez pourquoi il y a des embouteillages? C'est pas parce qu'il y a beaucoup de voitures, non. C'est parce que tout le monde conduit n'importe comment, se gare n'importe comment, et s'arrête n'importe où, n'importe quand. Amen. Amen. Le code de la route, je ne vais pas prêcher sur le code de la route, comprenez-vous? Et là, pour la protection des citoyens. Amen. La parole de Dieu. Et pour la protection du peuple de Dieu. Vous savez, le code de la route a ses limites. La parole de Dieu n'en a pas. Tu peux vivre toute ta vie chrétienne sans connaître, sans comprendre et sans marcher en accord avec la parole. Et ta vie sera un désordre complet. Même si tu es sincère, tu seras sincèrement dans le désordre. Amen. Mais amen. Connaître la parole, la comprendre et l'appliquer parfaitement dans tous les détails amènera l'harmonie, la gloire, nous gardera dans la protection de Dieu, dans une sécurité, parfaite face aux circonstances, face à l'adversité, les choses générales de la vie ou les choses particulières qui se produisent parfois. Amen. Il est important pour nous, peuple de Dieu, de ne pas être des promeneurs de Bible. Il y a des gens qui se promènent avec leur Bible. Ils promènent leur Bible d'un endroit à l'autre sans l'ouvrir. N'est-ce pas? Se promène avec la Bible. Ta Bible n'a pas besoin d'être promenée. Mais tu as besoin de la comprendre, la connaître et de l'aimer. Vous savez, quand on expérimente de bonnes choses, on commence à les aimer, à les désirer et à faire de ces choses que nous aimons et leur donner une part importante de notre vie. Et en fait, ce qui montre que tu réussis, ce qui montre que tu es béni, que tu avances spirituellement, ce ne sont pas tes grandes déclarations, ni tes longues prières, mais c'est la façon dont tu marches avec Dieu et avec sa parole. Parce que Dieu n'est jamais en dehors de sa parole. Il veille sur sa parole pour l'exécuter. Il est dans sa parole. Il n'est pas à côté, à gauche ou à droite. À côté, à gauche ou à droite, c'est l'erreur. Il y a une route. Si tu marches sur la route, tu es en sécurité. Mais quand tu commences à en sortir, tu te mets en danger. Et ce matin, nous allons voir certaines choses qui sont extrêmement importantes sur le fait de suivre exactement la parole de Dieu. Suivre exactement la direction du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, il est dans la parole de Dieu. Amen. Souvent, moi, j'ai entendu des choses, des personnes donner des prophéties, donner des paroles, et ça semble tout à fait, entre guillemets, biblique. Quand le Seigneur me montre, le Seigneur dit, et on commence à même parfois citer un passage ou une parole qui se trouve écrite ici, mais qui est complètement hors contexte, qui ne peut pas s'appliquer à qui que ce soit, et on trouve que c'est du n'importe quoi, n'importe comment. Amen. Amen. Le Saint-Esprit est dans la parole. Ne viens pas dire une chose, oui, le Saint-Esprit m'a dit que, ça fait très spirituel en effet. Mais ce qui est important, c'est ce qui a été dit. Est-ce que c'est conforme au cœur de Dieu? Ou est-ce que ça ne l'est pas? Amen. Amen. Je vous dis ça parce que c'est extrêmement important. N'écoutez pas n'importe quoi, n'importe qui, n'importe comment. Vous savez, il y a déjà longtemps, ça ne s'est pas passé ni hier ni avant-hier. Et c'est pour ça que j'ai attendu jusqu'à ce jour pour le dire. Mais il y a longtemps de cela, on était à l'église, c'était un dimanche matin, et il y avait un appel qui était fait pour les personnes qui souffraient de toutes les sortes d'hépatites. Parce que le Seigneur voulait guérir ces personnes. Cette parole a été donnée par le pasteur Olivier. Un homme de Dieu qui est digne d'être écouté parce qu'il ne donne pas des paroles n'importe quand, n'importe quoi, n'importe comment. Et il y avait une sœur qui souffrait de ce problème et elle voulait se lever pour l'appel. Et il y avait quelqu'un qui était assis à côté de cette personne qui la prend par le bras et qui fait « Non, 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 non. » Le Seigneur me montre autre chose. Je vois Jésus qui te montre un chemin et je vois vraiment le Seigneur qui fait comme ça par rapport au pasteur, par rapport au fait que tu viennes recevoir, entre guillemets, ça n'a pas été dit comme ça, que tu viennes recevoir la guérison. Faites attention à ce que vous écoutez. Prenez ce que vous entendez et confrontez-le à la parole. La parole de Dieu, c'est que tout le monde soit guéri. Quand il y a une parole de guérison qui est donnée, c'est une parole qui vient de Dieu. Amen. Amen. Donc faisons attention. Faisons vraiment attention de ne pas écouter n'importe qui se permet de dire n'importe quoi et n'importe comment. On va parler de Josué ce matin. On va parler de Josué, de la façon dont le Seigneur lui a parlé. Et on va aussi parler de ses erreurs. Parce qu'on peut recevoir des promesses comme Josué en a reçu. Et parfois ne pas voir les choses s'accomplir comme le Seigneur le veut. On va lire Josué chapitre 1. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, « Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, Passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Éthiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre ? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point, ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras.
Yasubiche chambere, Mose musabye uhora amaze gufa uhora bari Yosua mwene Nuni umufasha wa Mose ati Mose musabye wanje arapfuye none rero va hasi ujabukana abantu bose urwo ruzi Yorodani muje mu gihugu mbahaye mwebwe abisiraeli ahantu hose muzokandagira ibirenge ndahabahaye nkuko nabariye Mose uhereye mu bugaragwa no kuriya musozi reba none ugashitsa kuruzi runini uri arigo Efurata ugahitana igihugu cyose cy'abaheti ukageza ku kiyaga kinini gihera iburengerazuba nirwo ruzoba urugabano rwanyu nta muntu numwe azoshobora guhagarara imbere iminsi yose uzoba ukiriho nkuko nabariye Mose shikama ushira manga kuko ari wewe uzoshikiriza abo bantu igihugu nabariye basekuruza ko nzobashikanira mugabo shikama ushira manga cyane kugira ngo witondere ibyagezwe byose bivuga ubishitse ibyo Mose umusabyi wanje yakugize ntuzutinye ibi muri iryo muri ico gitabo byivyagezwe ntuzubikure ku kanwa kawe ariko uze wame ubirimbura ku murango no mwijoro kugira ngo ubone kwitondere ibyagezwe byose none si jewe bikubariye bishikama ushira manga kuko nuko ntutinye nturanduka umutima kuko jewe nduhoraho imana yawe kandi ndi kumwe nawe ahuzoja hose.
Amen. 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 Acclamons cette parole parce que c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. C'est la parole que Dieu a donnée à Josué. Et quand le Seigneur a dit ces choses à Josué, il les pensait vraiment. C'était ce qu'il y avait dans son cœur. Amen. Dieu n'est pas un homme pour nous dire des choses ou nous faire des promesses qu'il n'a pas l'intention de tenir. Pour nous laisser tomber à la première difficulté. Dieu était entièrement sérieux dans cette parole. Et cette parole qui était à donner à Josué, elle nous concerne, vous et moi. Amen. Pourquoi ? Parce que nous sommes appelés à conquérir. Dis à ton voisin, écoutez bien avant de le dire. Tu n'es pas une victime, tu es un conquérant, en français.
Tu n'es pas une victime, tu es un conquérant.
Dis-le, tu n'es pas une victime, tu es un conquérant. Dis-toi-le à toi-même. Je ne suis pas une victime, je suis une conquérante. C'est pour les filles, les garçons, vous dites un.
Je ne suis pas une victime, je suis une conquérante.
Amen, amen, amen. Nous ne sommes pas des victimes. Amen. Nous sommes des conquérants. Nous sommes appelés à conquérir. Comme Josué a conquis la terre promise. Amen. Toi aussi, tu es appelé à conquérir pour le royaume de Dieu. Conquérir des âmes. Ça, c'est notre appel. Parce que la volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés. Nous sommes appelés à agrandir le royaume de Dieu. conquérir des âmes pour Christ, guérir les malades, chasser des démons, ressusciter des morts. C'est dans ce domaine que nous sommes appelés à conquérir. Amen. Dans le domaine de nos vies personnelles également. Mais la première et la première des choses, c'est dans le domaine du royaume de Dieu. C'est pour ça que nous pouvons prendre cette parole. Amen. Mais ne la prenez pas n'importe comment. Il y a des gens qui proclament la parole. Oh, alléluia, nul ne tiendra devant moi tant que je vivrai. Le Seigneur est avec moi. Il ne me délaissera pas. Il ne m'abandonnera pas. Oui. Seulement et seulement si tu marches dans sa volonté et que tu lui obéis. Vous savez, prendre la parole de Dieu et essayer de l'appliquer sur notre désobéissance, ça ne marche pas. Ça ne marchera jamais. La parole de Dieu est efficace pour ceux qui lui obéissent. Tu veux désobéir à Dieu? Tu proclames la parole de Dieu? Laisse tomber. Va dormir. Ou va boire un Fanta. Ça te sera beaucoup plus profitable. À moins que tu ne décides de te repentir. Amen. Amen. Et on le voit dans la vie de Josué. Josué a fait ces expériences dont je vous parle. Il reçoit ces paroles. D'abord, avant d'aller jusque-là, on va voir qui est Josué. Pourquoi Dieu a choisi Josué et pas n'importe qui, et pas un autre. En fait, quand on lit l'histoire du peuple d'Israël, depuis le moment où ils ont quitté l'Égypte jusqu'au moment où ils sont entrés dans la terre promise, il y avait seulement deux personnes qui auraient pu prendre la place de Moïse. Deux personnes. Josué ou bien Caleb. Dieu avait un plan pour Josué, c'est lui qui a fait rentrer le peuple d'Israël. Et Caleb, il a eu sa part dans d'autres choses que le Seigneur avait pour lui. Vous savez, Dieu ne choisit pas n'importe qui pour faire de grandes choses. Amen. Dieu aime tout le monde, il aime tous ses enfants exactement de la même façon. Mais il y a des personnes qu'il ne peut pas choisir. Les personnes qui ne sont pas sincères, les personnes qui ne sont pas stables, les personnes qui ne sont pas prêtes à obéir, même quand on ne comprend pas, aller jusqu'au bout avec Dieu, même comme c'est tellement difficile. Amen. Dieu vous aime tous, il nous aime tous. Et Dieu appelle tout le monde. Mais tout le monde ne répondra pas de la façon qui permettra à Dieu de t'utiliser. Amen. Pourquoi Dieu a choisi Josué? Pas parce que c'était quelqu'un d'extraordinaire, mais c'était quelqu'un de sincère, et d'engagé avec le Seigneur. Malgré ce choix, on va le voir, Josué a fait des erreurs, et des graves, pas des petites. Mais entre le moment où Dieu a appelé Josué, le moment où il est rentré dans cet appel, il y a 40 ans qui se sont passés. Josué faisait partie de ceux qui ont quitté l'Égypte pendant 40 ans. Il n'a rien fait d'autre que d'être le serviteur de Moïse. Il était au service de Moïse. Et du fait qu'il était au service de Moïse, il était proche de Moïse. Et du fait qu'il était proche de Moïse, il a vu des choses que d'autres n'ont pas vues. Par exemple, quand on lit dans Exode, chapitre 33, et le verset 11, Exode chapitre 33, verset 11, l'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Puis Moïse retournait au camp, mais son jeune serviteur Josué, fils de Nun, ne sortait pas du milieu de la tente. Josué voyait quand Moïse parlait avec le Seigneur. Il était proche de lui. Il était peut-être seulement son serviteur, mais il était dans la tente, là où résidait la présence de Dieu. Pendant 40 ans, pendant 40 années, il a vu la gloire de Dieu manifestée au travers de Moïse. Et je suis sûre qu'il a appris beaucoup de choses. Mais ce n'est pas le tout. Il a fallu que Josué aussi soit testé. On lit dans Nombre chapitre 13, le verset 8, le test de Josué. Donc, il y a 12 espions qui sont envoyés pour espionner la terre promise. Et verset 8, on voit pour la tribu d'Israël, pour la tribu d'Éphraïm, Osée ou Josué d'ailleurs, fils de Noun. Nombre chapitre 13, verset 8.
Guharura cumi na gatatu ku murongo w'umunani ngo mu muryango wa Efraimu hatumwa Hoseya mwene Nuni.
Ça, c'était le temps de test pour la vie de
Josué.
Il voit le Seigneur, pas pendant 40 ans, parce que ça, c'est avant qu'il reste dans le désert pendant 40 ans. Pendant un certain temps, pendant plusieurs mois, il voit un certain nombre de choses. Il est le serviteur de Moïse. Il expérimente la présence de Dieu. Puis il est choisi pour être testé. Qui a envie d'être choisi pour être testé? Qui a envie d'être choisi pour être utilisé puissamment par Dieu?
Mais
il
n'y
en a pas beaucoup, Seigneur. Aide-les. Ok. Qui a envie d'être testé? L'un ne va pas sans l'autre, frères et sœurs. L'un ne va pas sans l'autre. Si tu veux être puissamment utilisé, tu seras puissamment testé. Yo, je ne sais pas si je vais y arriver, mais je vais essayer, Seigneur. Je veux y arriver. Je peux tout par celui qui me fortifie, même passer les tests. Ta grâce me suffit. Parce que sans ta grâce, vraiment, je ne pourrais pas y arriver. Que ce soit la parole de foi qui sorte de ta bouche. Ne sois pas quelqu'un qui dit, oh, moi je peux y arriver. Pierre, minable. Il a renié Jésus 3 fois. David, minable. Il a trompé sa femme. Qui d'autre encore qui a fait des... Abraham, minable. Il a été faire un enfant à sa servante. Mais moi, Seigneur, tu peux compter sur moi. C'est les gens qui ont ce genre d'attitude. Vous ne savez pas dans quoi vous allez tomber. Mais ça va vous faire très mal. Ce que nous sommes, c'est le Seigneur qui l'a fait. Et si nous pouvons dire que nous tenons debout, c'est seulement par sa grâce et par l'assistance de son esprit. Parce que nous n'avons pas en nous-mêmes la capacité ni la force de le faire. Amen. Josué est passé au test. Vous savez, avant de faire quelque chose de très grand, on teste toujours. Par exemple, avant le culte, Justin, il teste la sonorisation. C'est pour ça que quand on prend le micro, ça marche tout de suite et très bien. Sauf quand il oublie de tester.
Ah,
c'est une plaisanterie. Mais quand on a quelque chose vraiment de grand en préparation, on fait une répétition, on se prépare, on essaye, on teste. Et ça, c'est quelque chose de normal. Dieu a besoin de nous tester. Est-ce que c'est parce qu'il ne sait pas ce qu'il y a en nous? Non. Ça, il le sait. Il sait très bien ce qu'il y a en nous. Mais il a besoin de nous tester pour que nous-mêmes, nous voyions ce qu'il y a en nous. Amen. Parce que ce qu'il y a en nous, ça se manifeste dans l'épreuve. Ça ressort dans les tests. Combien de fois ça nous est arrivé? Peut-être pas des centaines de fois, mais plusieurs fois. Tu connais des personnes, tu les vois jour après jour. Et tu dis vraiment, celui-là, je le connais. On peut lui faire confiance. Et brusquement, il y a un événement qui ressort. Et cette personne change. Et tu te dis, mon Dieu, lui, mais j'aurais jamais cru qu'il pourrait faire une chose. Elle, mais non, c'était quelqu'un de sûr. En fait, toutes ces choses étaient dans le cœur de cette personne depuis toujours. Depuis toujours, je dis. Mais ça ne se manifestait pas. Il a fallu le test. Il a fallu la chose qui pique pour faire ressortir ce qu'il y a vraiment dans le cœur de quelqu'un. Et Dieu veut que tu saches toi-même ce qu'il y a vraiment dans ton cœur. C'est pour ça qu'il teste. Il teste pour te montrer. Et quand le résultat est positif, ça veut dire que c'est le temps d'entrer dans une nouvelle dimension. Amen. Et c'est ce qui s'est passé pour Josué. Il a vu la terre promise. Il a vu les villes fortifiées. Il a vu les géants. Il a vu les impossibilités de ses yeux. Mais il a vu Dieu. Celui qu'il rencontrait quand il était avec Moïse dans la tente d'assignation. Il sait et il savait que Dieu était plus grand et plus grand que toutes ces impossibilités. Et c'est le témoignage qu'il a rendu. Et c'est ce témoignage qu'il a rendu dans ce temps de test qui a fait que c'est lui qui a été choisi pour faire entrer le peuple d'Israël dans la terre promise. Donc arrête de dire, si seulement j'étais Moïse, si seulement j'étais Josué, les choses marcheraient différemment. Tu es plus grand que Moïse, tu es plus grand que Josué, parce que le Fils de Dieu habite en toi, alors que Jésus n'habitait pas dans le cœur de ces personnes-là. Mais tu n'es pas né de nouveau. Mais toi, tu es né de nouveau. Donc tu es plus que Moïse. Tu es plus que Josué. Le Seigneur te fera passer par le test. Et si tu le réussis, il t'amènera dans une dimension plus grande que celle de Moïse, plus grande que celle de Josué, parce que nous sommes dans le temps de l'Église. Voilà pourquoi Josué a été choisi. Voilà pourquoi il a reçu toutes ses promesses. Et voilà comment, après cela, il a commencé à faire entrer le peuple d'Israël dans la terre promise. Mais comme je vous le disais, Josué a commis des erreurs. Il a commis des erreurs parce qu'il n'a pas consulté Dieu dans certaines occasions, parce qu'il a pensé, je sais, c'est facile, ça a marché une fois, ça marchera encore. Vous savez, pour ceux qui marchent avec Dieu, il y a le temps où tu ne vois pas les choses de Dieu vraiment se manifester, s'accomplir, et tu pries, tu cherches Dieu et tu as du mal à entendre, et à un moment donné tu comprends, tu sais quoi faire et tu marches avec ce que Dieu fait. Il y a ce temps vraiment de chercher vraiment au début de notre vie chrétienne. chrétienne, Seigneur, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que je dois faire? Et puis au bout d'un moment, on acquiert une certaine expérience et il arrive parfois, moi je sais ce qu'il faut faire. Et c'est le moment même où tu fonces la tête la première dans un mur et tu te casses la tête. Parlons de Josué. Il remporte avec l'aide de Dieu, plus ou moins, plus exactement, la manifestation de Dieu, une bataille incroyable, la bataille de Jéricho. Dieu vient lui-même en personne, le Seigneur Jésus vient lui-même en personne. Il parle à Josué, il lui dit quoi faire, il lui dit prends courage, fortifie-toi. Il lui montre la bataille, comment ça va se dérouler. Faire 7 fois le tour de la ville pendant 6 jours, une fois par jour. Et le 7e jour, faire 7 fois le tour de la ville. Et la ville va tomber. Et ils vont massacrer tous ces gens-là. Parce que c'était le plan de Dieu de donner ce pays et de retrancher tous les habitants sans aucune exception pour que le peuple d'Israël prenne possession de son héritage. Fort de cette victoire, il se précipite sur la deuxième ville, la ville d'Aï. Non, l'ail, c'est de l'ail. Et de l'oignon en Kirundi. Parce que ail, ça se dit pas ail en Kirundi. Ça se dit comment? L'ail que tu mets dans la nourriture. La nourriture, tu mets de l'ail, ça se met comment? Ça se dit comment l'ail? Donc tu peux dire ail. Non, ail. Donc il y a un événement qui se produit et que Moïse ne connaît pas. Est-ce que vous savez que les serviteurs de Dieu, même les plus grands, même les meilleurs, ils ne savent pas tout. Ils ne savent pas tout. Ils ne savent pas tout. Amen. Amen. Un jour, il y avait comme ça un serviteur de Dieu, qui est vraiment quelqu'un de respecté, de connu. Il prie pour une femme, pour que son accouchement se passe bien. Et la pauvre, elle n'était pas enceinte, elle avait un autre problème qui lui avait fait gonfler le ventre. Vous savez, ce genre de situation, c'est excellent pour l'humilité. On a vraiment besoin de se faire rabaisser assez souvent. Ça évite de gonfler. Amen. Amen. Donc, Josué ne savait pas tout. Il ne savait pas tout. Il ne savait pas qu'il y avait un certain Akan qui avait volé des choses. Il avait pris dans le butin. Dieu avait dit, vous allez tout me donner. C'est normal. Les premiers fruits, tout ce qui est en premier, appartient à Dieu. Amen. Ton premier salaire. Si tu veux être béni. Moi, je suis en train de faire un truc. Et mon premier résultat, c'est pour le Seigneur. Je viens de le décider là même. Vous savez, le Seigneur nous parle quand on prêche. Amen. Amen. Donc, il ne savait pas qu'un homme avait volé, bon, pas grand chose dans parmi le butin. Un petit truc ici, un petit truc. Ça va pas se voir, personne le saura. Puis bon, bah Dieu, il a pas besoin de tout ça. Après tout, je peux le prendre. Et ce péché, ça avait mis l'interdit dans le camp d'Israël. Ça avait attiré la malédiction. On peut attirer la bénédiction, mais aussi on peut attirer la malédiction. On peut attirer les problèmes sur nos vies. Amen. Et ça, même les chrétiens. Tu es béni par nature, mais si tu vis n'importe comment, tu fais n'importe quoi, je te promets que tu vas attirer de sérieux problèmes sur ta vie. Donc voilà, il y avait du péché. Et Josué ne le savait pas. Ils ont bien réussi, ils ont bien vaincu Jéricho. Et il y a cette petite ville d'Aï qui est un petit peu plus loin. D'Aï. Un petit peu plus loin. C'est même pas la peine de se fatiguer. Allez, peuple d'Israël. On va prendre un petit groupe de personnes et on va les écraser comme on a écrasé Jéricho sans aucun problème. Mais les choses ne se sont pas présentées de la même manière. Quand on lit Josué chapitre 7, verset 5, les gens d'Aï leur tuèrent environ 36 hommes. Ils les poursuivirent depuis la porte jusqu'à Shebarim et les battirent à la descente. Le peuple fut consterné et prit courage. Amen. Quoi que tu fasses dans ta vie, tu as besoin d'une direction. Tu as besoin de la parole de Dieu. Amen. Pas pour te lever le matin, bien sûr. Ce matin, est-ce que je me lève ou je ne me lève pas? Seigneur, tu m'as rien dit. Donc, je vais rester dans la prière. Fais ça. Tu vas perdre ton boulot. Amen. Il y a certaines choses, tu n'as pas besoin de prier, c'est évident. Est-ce que je me lave les dents ce matin ou pas? Si tu ne veux pas te laver les dents, ne viens pas me parler à 3 mètres. Non, sérieusement, il y a des choses pour lesquelles on n'a pas besoin de prier. Mais pour les directions de nos vies, pour les choix de nos vies, assure-toi vraiment que le Seigneur t'amène ici et non pas là. Et surtout, quand le Seigneur ne dit pas oui, si le Seigneur ne te dit pas oui, si le Seigneur ne te dit pas non, ça ne veut pas dire oui. Ça ne veut pas dire je fais ce que je veux puisque le Seigneur ne m'a pas dit non. Quand le Seigneur ne dit rien, en règle générale, ça veut dire que c'est non. Quand le Seigneur ne dit rien, en règle générale, ça veut dire non. Quand le Seigneur ne dit rien, en règle générale, ça veut dire non. Si tu ne me crois pas, fais comme tu veux. Mais ne dis pas que tu n'as pas été prévenu. Parce que ça a été dit 3 fois ce matin. Quand le Seigneur ne dit pas oui, les 3/4 du temps, pour ne pas dire tout le temps, c'est que c'est non. Alors pourquoi le Seigneur ne dit rien? Test. C'est un test. Un test pour savoir si tu es capable d'attendre jusqu'à ce qu'il te parle ou que si tu fonces la tête la première juste parce que ça t'intéresse. Et ce qui nous intéresse aujourd'hui, quand ce n'est pas selon Dieu, tu vas pleurer demain. Je t'assure que tu vas pleurer demain. Chacun d'entre nous, certains d'entre nous. Moi aussi, j'ai fait mes expériences dans ce domaine. J'avais tellement envie de faire quelque chose. Et je priais, j'étais nouvellement convertie. Et je priais, je dis, Seigneur, vraiment, je voudrais faire ça. Parce que le travail que j'ai en ce moment, ça me fatigue. J'ai trop de déplacements, j'aimerais tellement, tellement faire ça. Et je priais. Et le Seigneur m'a jamais dit oui. Mais au fond de mon cœur, je sentais un malaise. Et comme j'étais encore nouvellement convertie, j'étais voir un chrétien dit, prie avec moi. En fait, c'était pas prie avec moi que je disais. Je disais ça avec ma bouche. Mais au fond de mon cœur, c'était « Dis-moi ce que j'ai envie d'entendre. » Vous savez, quand on demande aux gens de prier avec nous, soyons sincères. Amen. Et il a commencé à me donner des prophéties. Oh, je vois. Je vois. En fait, je voulais ouvrir un magasin dans l'endroit où j'habitais. Oh, je vois. Quand je me suis j'étais acheté des clous ici, là, en face. Et quand je me suis retournée, oh, j'ai vu. J'ai dit, oh, gloire à Dieu, il a vu. Et j'y suis allée. Et j'ai ouvert mon magasin. Et pendant 3 mois, je me suis assise là tous les jours en regardant les voitures passer, les gens passer et personne entrait parce que c'était pas un bon endroit. C'était pas ce que Dieu voulait pour moi. Et j'en ai subi les conséquences. Quand le Seigneur ne te dit pas oui, ça veut dire que c'est non. Ou ça veut dire que c'est seulement un choix humain. Alors qu'il y a des choix qui viennent de lui, des choix divins qui auront des résultats divins, surnaturels. Les choix humains, même les meilleurs, n'auront que des résultats humains. Les choix selon Dieu, selon ce que Dieu te dit spécifiquement, auront des résultats surnaturels. Pourquoi veux-tu avoir des résultats surnaturels alors que tu ne fais que des choix humains? Si tu sèmes des pommes de terre, tu récolteras des pommes de terre. Pourquoi est-ce que tu sèmes des maïs en espérant récolter des pommes de terre? C'est impossible. Impossible. Dieu est capable de te parler. Et arrête de lui dire, Seigneur, c'est à gauche ou c'est à droite? Seigneur, je veux me marier. Est-ce que c'est Françoise ou est-ce que c'est Martine? Ça suffit. Quand Dieu a créé Adam, il ne lui a pas donné un catalogue. Alors, numéro 1, c'est Ève. Deuxième, c'est Martine. Troisième, c'est Stéphanie. Quatrième, c'est Jeanne. Adam, il se serait gratté la tête pendant longtemps en disant, la blonde ou la brune? La blanche ou la verte? La noire ou la rouge? Ok, j'aime bien celle-là. Celle-là, elle a des avantages. Mais elle a quand même un défaut. Celle-là, elle a des défauts, mais elle a quand même un avantage. Dieu lui a dit, voilà ta femme. Elle avait des avantages parce qu'elle était très belle. Mais elle avait aussi des inconvénients. C'est elle qui a chuté la première. Que tout le monde dise Amen.
Amen.
Amen. Amen. Dieu te parle. Il te dit, voilà ce que j'ai pour toi. Voilà ce que je te donne. Voilà dans quelle direction je vais t'amener.
Amen.
Parce que quand on dit à gauche ou à droite, on a déjà une idée en tête et c'est très mauvais pour nous. Mieux vaut ne pas avoir d'idée. Seigneur, montre-moi ce que tu veux. J'ai aucune idée sur la question. Je ne veux même pas en avoir. Je préfère que tu me montres. Et quand tu fais ça, tu as vraiment confiance dans ton Seigneur. Et il te dira, voilà ce que j'ai pour toi. Ça et ça. Vous savez, Dieu est simple, il n'est pas compliqué. D'abord, tu commences là, puis tu continues là, et ensuite on finira ici. Voilà comment je vais te diriger. Mais est-ce que tu as ce cœur, moi? Est-ce que tu as ce cœur? On revient à Josué. Josué, il était consterné. à cause de cette défaite d'Aï, alors qu'ils étaient sûrs d'avoir la victoire. Et c'est au moment où il a eu la défaite qu'il va commencer à chercher Dieu. Il va commencer à chercher Dieu. Et là encore, vraiment, je veux mettre le point là-dessus. On va lire verset 6. Josué déchira ses vêtements et se prosterna jusqu'au soir, le visage contre terre, devant l'arche de l'Éternel. Lui et les anciens d'Israël, et ils se couvrirent la tête de poussière. Josué dit, « Ah, Seigneur éternel, pourquoi tu fais passer le Jourdain, ce peuple, pour nous livrer entre les mains des Amoréens et nous faire périr ? Oh, si nous avions su rester de l'autre côté du Jourdain. De grâce, Seigneur. Que dirais-je après ce qu'Israël a tourné le dos devant ses ennemis? Les Cananéens et tous les habitants du pays l'apprendront. Ils nous envelopperont. Ils nous feront disparaître notre nom de la terre. Et que feras-tu pour ton grand nom ?
Kumurongo wagatandatu Yesuwa nawe yitanamura ko impuzu ziwe yitembagaza imbere y'isanduku y'Uhoraho ashitsa ku mugoroba bona bakuru b'Isirayeli basubira ku mikungugu ku mitwe Yesuwa avuga ati yo ewe mana y'Uhoraho niki mwamuhoraho niki cyatumye ujabutsa aba bantu Yorodani kugira ngo ubagabure maboko y'abamori ngo batugeseze eregiyo batuba tuba twapfuye tuguma hakurya ya Yorodani none ga mwami ndacavuga iki ko abisirayeli bajingitse igitugu imbere y'abansi babo.
La prière de lamentation et de plainte.
Oh
Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que tu nous as fait sortir d'Égypte? Pourquoi on dit que tu as un grand Dieu et regarde, tu nous as laissé tomber. On est dans des problèmes. La prière que nous ne ferons plus jamais dans cette église. Amen. Amen. Prière insensée, ridicule, stupide. Quand nous avons des problèmes, au lieu de dire pourquoi, disons comment faire, comment en sortir, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi je suis arrivé là. Amen. Et ça, c'est ce que je... Vous savez, Dieu a été bon avec Josué. Parce que ce n'était pas de la faute du Seigneur, tout ça. Il aurait pu ne rien lui répondre du tout. Et Josué avait 40 ans d'expérience dans la présence de Dieu. C'était pas un petit enfant. Il connaissait les choses de Dieu. En bonne partie. Il a réagi exactement comme le peuple d'Israël. Lorsqu'il est devant la mer Rouge. J'aurais dû en rester en Égypte. Si c'est pour mourir là, autant il fallait mieux qu'on meure carrément en Égypte. Parce qu'au moins en Égypte, il y avait des tombes. Ici, il n'y en a pas. Fais la même prière. Pourquoi est-ce que ça ne va pas? Qu'est-ce qui se passe? Seigneur, est-ce que tu es vraiment fidèle à ta parole? Oh, pourquoi est-ce que ça m'arrive qu'à moi? Et le Seigneur va parler à Josué. Le Seigneur va lui parler. Et il va lui dire, verset 10, lève-toi. Pourquoi est-ce que t'es couché? Vous savez, les fois où les gens se mettaient de la poussière dans les cheveux et déchiraient leurs vêtements, vous savez quel était le métier le plus prospère à cette époque? C'était tailleur, parce qu'il fallait tout le temps réparer les vêtements déchirés. Et ceux qui faisaient fortune aussi, c'est ceux qui vendaient du shampoing.
Pour se laver
les cheveux. Non, c'est pas vrai, c'est une plaisanterie. Mais ils étaient. Le Seigneur lui dit, lève-toi. Le Seigneur dit, ça suffit maintenant. Il le dit avec bonté, avec amour. Il dit, ça suffit. Arrête de te lamenter. Arrête de faire des prières aussi stupides qui ne servent à rien. Arrête.
Mais
lève-toi. Amen. Jésus. Oh. Quand le Seigneur dit « Lève-toi », c'est bon signe, non? Quand il dit « Lève-toi » à celui qui était paralysé,
«
Lève-toi, prends ton lit et marche », comme ça nous a été dit tout à l'heure. Celui qu'on a fait descendre par le toit,
«
Lève-toi, arrange ton lit, va dans ta maison ». Il le dit aussi à la petite fille qui était morte dans la maison de Jaïrus. Je te le dis, lève-toi. 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 Quand Dieu dit lève-toi, ça veut dire qu'il y a un miracle qui est en train de se produire. Lève-toi. Et ça lui demande de lui, à lui, de marcher par la foi. Se lever, ça demande de la foi. Quand tout est foutu, quand tout est détruit, quand tout est désespéré, et que le Seigneur te dit, lève-toi, tu peux dire, mais Seigneur, je vais me lever, mais une fois que tu auras arrangé ce désastre. Et le Seigneur te dit non. D'abord tu te lèves. Et après j'arrangerai ton désastre. Amen. C'est exactement la parole que Dieu a donnée, que Jésus a donnée à Pierre. Sors de ce bateau. Viens et marche. Pour pouvoir marcher, il a fallu d'abord sortir du bateau. Et pour toi, il s'agit de te lever. Lève-toi. Lève-toi. Pourquoi restes-tu couché sur ton visage? Et Dieu va donner à Josué les réponses. Si toutes ces choses sont arrivées, c'est pas parce que je t'avais menti. Quand je t'ai dit nul ne tiendra devant toi, je ne t'ai pas menti. Mais pour que cette parole puisse être efficace, il fallait marcher dans l'obéissance, il fallait marcher dans la parole, il fallait se séparer du péché. Voilà pourquoi ces choses n'ont pas fonctionné. Le peuple a péché. Et Josué était tellement sûr de lui dans cette histoire de bataille contre la vie d'Aï, qui n'a même pas pris la peine de dire Seigneur, montre-moi comment faire cette fois encore. Il ne l'a pas fait. Il en a eu le résultat. Et Dieu va parler à Josué et dire voilà le péché. Et ce qui va se passer, c'est que ceux qui ont péché sont retranchés. Amen. Là, ils ont été retranchés physiquement. Mais sache une chose, mon frère, ma soeur. À chaque fois que tu pêches, que tu vis dans les péchés, tu te retranches toi-même, tout seul, des promesses de Dieu, des promesses de sa parole. Tu te retranches tout seul. Mais heureusement que c'est jamais définitif, parce que le Seigneur nous donne toujours une porte pour revenir dans ces choses. Et cette porte, c'est la repentance. Celui qui reconnaît ses péchés, celui qui reconnaît ses transgressions et qui les délaisse. C'est pas tout de le reconnaître, mais c'est d'arrêter et d'arrêter définitivement. Seigneur, je te promets que plus jamais je ne ferai ci, je ne ferai ça, ou je parlerai comme ça. Plus jamais, je te le promets. Quand on fait cette démarche, il est fidèle et juste pour pardonner. Et le sang de Jésus efface. Et c'est alors que tu es à nouveau qualifié pour la promesse, les promesses de la parole de Dieu. Est-ce que tu veux être qualifié, disqualifié? Est-ce que tu veux être bénéficiaire ou est-ce que tu veux être retranché? Le choix nous appartient, frères et sœurs. Le choix nous appartient. Et Dieu va parler encore à Josué et lui dit vers chapitre 8 verset 1: ne crains point, ne t'effraie point. Prends avec toi tous les gens de guerre, lève-toi, monte contre Haï. Voici, je livre entre tes mains le roi d'Haï et son peuple, sa ville et son pays.
Voyez,
les mauvais choix, les décisions personnelles peuvent nous paraître très bonnes. Mais si ce n'est pas Dieu, si ce n'est pas selon Dieu, au bout du compte, parfois c'est après une semaine, parfois c'est après 5 ans ou 10 ans, ou 20 ans, Tu arrives et tu te dis, je n'aurais jamais dû faire ce choix. Je n'aurais jamais dû prendre cette décision. C'est moi qui ai voulu ça. Maintenant, je regrette. Et Dieu ne veut pas que nous vivions dans les regrets. Amen. Il veut que nous vivions dans la joie. La joie d'avoir récolté ce que nous avons fait parce que nous lui avons obéi, parce que nous avons suivi ses directives et ses conseils. Amen. La parole de Dieu, elle est la parole. Elle est remplie de promesses. Mais tu ne peux pas l'appliquer sur ta vie. Si tu vis une vie de désobéissance, si tu vis aussi une vie d'ignorance, on peut être sincère et sincèrement ignorant. Tout à l'heure, je vous parlais du code de la route. Tu peux être sincèrement ignorant du code de la route. Et dans ton ignorance, dans ta sincérité, tu grilles une priorité. Malheureusement, au moment où tu passes, il y a une voiture qui passe également, qui elle avait la priorité. La voiture qui passe, qui avait la priorité. Et le chauffeur était persuadé que tu allais t'arrêter. Parce qu'il sait que c'est lui qui a la priorité. Donc tu dois t'arrêter. Mais tu étais sincèrement ignorant. Et tu as sincèrement provoqué un accident. Amen.
Amen.
Ne nous trouvons pas des excuses en disant, oh, je ne savais pas. Oh, je ne l'ai pas fait exprès. Mais j'étais sincère. Être sincère, c'est bien. Mais je vais vous dire que ce n'est pas suffisant. Nous devons être sincères, premièrement, avoir la connaissance, deuxièmement, et bien sûr aussi la sagesse pour savoir comment appliquer cette connaissance. Et ça, c'est le travail de toute notre vie. Chercher Dieu, chercher à connaître, à comprendre, à mettre en pratique sa parole de la bonne manière pour en avoir le bon résultat. Amen.
Amen.
On va prier ensemble. Que le Seigneur vous bénisse.
Nous espérons que vous avez été bénis par ce message. Chaque année, le ministère Enseigne-moi a un impact considérable dans la vie de dizaines de milliers de personnes. Avec votre aide, nous continuerons à diffuser la parole de Dieu partout dans le monde. Dès aujourd'hui, devenez vous aussi partenaire du ministère Enseigne-moi en vous connectant sur le site www.association-enseignemoi.org. www.association-enseignemoi.org.